Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le Kenya au menu cette semaine. Alors, il ne sera pas question d'élections, mais d'école. Officiellement, les établissements publics sont gratuits, mais en réalité, les parents doivent mettre souvent la main à la poche. Et puis, nous irons ensuite parler Somalie à la rencontre de deux militants repentis de la milice islamiste Al-Shabaab. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. C'est le président Kibaki, le prédécesseur d'Uhuru Kenyatta, qui a abrogé les frais de scolarité dans les écoles primaires du public au Kenya. C'était il y a une quinzaine d'années. Mais dans la réalité, aujourd'hui encore, les élèves manquent souvent de matériel scolaire, de manuels et même de mobilier. Dans les écoles de campagne, c'est pire. Parfois, il n'y a même pas de bâtiment en dur. Alors vous pensez des tables et des chaises. Évidemment, ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus de ce dénuement. Dans l'école Kabiria à Nairobi, les élèves répètent l'alphabet. Ils sont une soixantaine d'enfants à se serrer dans cette salle de classe. Il n'y a pas de place assise et de table pour tout le monde. Le tableau au mur est tellement usé qu'il s'effrite sur les bords.
We lack books, we lack classrooms.
Nous manquons de manuels, de salles de classe, nous n'avons même pas de bâtiment administratif. Ici, c'était une maison d'habitation à l'origine et elle n'est pas assez grande.
Mary Gazuku est la directrice adjointe de cette école. Elle dirige une équipe de 16 enseignants pour 900 écoliers. Et comme elle tient les cordons de la bourse, eh bien, elle doit faire des économies autant que possible.
C'est un peu tough.
C'est difficile quand même. Tout l'argent que nous recevons provient de l'État, mais il ne suffit pas.
La gratuité de l'enseignement a été lancée comme un projet de prestige par le président Kibaki à l'époque, sauf qu'aucun financement alternatif n'a été prévu. Stephen Kingory est enseignant.
Les parents sont conscients de l'importance de l'éducation. Ils essayent d'acheter des fournitures et de compenser le manque de subventions. L'école gratuite reçoit très peu.
Les mauvaises conditions n'empêchent pas les élèves d'être motivés. Margaret, par exemple, est première de sa classe et elle en est fière. Elle explique que jusqu'à présent, elle a eu des bonnes notes à ses examens, notamment en maths et en anglais. C'était facile, dit-elle.
Yes, I started my examination. Yes, I'm good. It was math and English. No, it was easy.
À 9 ans, Margaret a eu de la chance. Elle a des facilités. Elle n'a pas besoin d'être très encadrée par les professeurs pour bien apprendre. Je dis une chance car le Kenya manque cruellement d'enseignants, près de 80 000 d'après les chiffres officiels. Alors pour les élèves qui ont des difficultés, il faut que les parents paient des cours particuliers lorsqu'ils en ont les moyens.
C'est dur de devoir payer en plus tous les mois. Nous comprenons bien qu'il y a trop peu d'enseignants pour les enfants. Alors l'école nous réclame de l'argent pour pouvoir payer des enseignants supplémentaires.
Ces frais s'élèvent à environ 4 euros en plus par mois. Pour cette mère, Motesi Domina, qui habite dans un bidonville, c'est beaucoup d'argent, 4 euros par mois. D'autant qu'il faut aussi acheter du papier, des crayons, des stylos, des manuels, l'uniforme obligatoire et même du bois de chauffe pour la cantine. À la pause de midi, les élèves se mettent en rang devant une grande marmite.
C'est un mélange de maïs et de fruits secs.
La directrice adjointe le sait bien, pour beaucoup d'élèves, ce sera le seul vrai repas de la journée. Un enseignant nous explique que la cantine est aussi l'une des raisons qui attire certains enfants à l'école. Une école où l'on nourrit corps et âme, pour ainsi dire. Parce qu'il n'y a pas assez d'internats accessibles financièrement. Dans les campagnes, les conditions sont encore bien pires. Lucy Gatogo dispense ses cours aux petits de première année sous un arbre.
Since we don't have classrooms.
Nous n'avons pas assez de place, pas de toilettes, pas d'eau courante. Alors nous nous concentrons sur le développement intellectuel de l'enfant.
Un rapport publié fin septembre par les Nations Unies montre que 88% des enfants d'Afrique subsaharienne quittent le primaire sans savoir convenablement lire ni écrire.
You get to know them, but reaching to all of them.
Il est difficile de soutenir les enfants. On y arrive avec les bons élèves qui apprennent vite, mais les plus faibles, seul Dieu peut les aider.
Au Kenya, un enfant sur cinq ne peut pas aller à l'école. Et c'est encore moins dans les milieux les plus pauvres, au fur et à mesure que le niveau d'instruction s'élève. Un autre problème qui se pose aux élèves du secondaire cette fois, c'est qu'il n'est pas rare que les examens ne puissent pas avoir lieu. Les enfants ont alors appris sans voir leurs connaissances testées et reconnues par la sanction du diplôme, ce qui est frustrant. Leurs enseignants ont l'impression d'avoir perdu un an et les parents, eux, perdent beaucoup d'argent. L'enseignant Stephen Kingery regrette le désintérêt des pouvoirs publics pour ces questions. Il attend donc avec impatience la fameuse réforme de l'éducation qui est promise mais qui n'arrive pas.
Quand on voit comment les politiciens traitent l'école publique, on se dit qu'ils ne veulent tout simplement pas que nous puissions rivaliser avec les écoles privées. De toute façon, c'est dans ces écoles-là que vont les enfants des riches, pas dans le public.
Because of course, those in private schools are kids of the rich.
Appelons-les Abou et Gardéré. Évidemment, ce ne sont pas leurs véritables noms, mais ils préfèrent rester anonymes. Pourquoi ? Eh bien parce que ces deux Somaliens témoignent de leur déception de la milice Al-Shabaab à laquelle ils ont appartenu. Alors bien sûr, il est difficile de vérifier et de recouper les histoires racontées par les deux hommes, mais voilà ce qu'ils nous ont narré. Originaires du sud du pays, leur région est un fief de la milice islamiste qui a fait allégeance à Al-Qaïda. Gardéré.
Nous voulons un État islamique. Al-Shabaab veut détruire le système fédéral et les autres valeurs occidentales pour les remplacer par des principes religieux basés sur la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai rejoint cette milice.
Gardéré a 50 ans, deux épouses et 8 enfants. Sur son front, on peut voir la tache sombre censée témoigner de son assiduité à la prière. Il a rejoint le mouvement extrémiste en 2008 quand les troupes éthiopiennes ont pris la tête de la lutte antiterroriste en Somalie. Depuis, les effectifs de la mission AMISOM s'élèvent à 22 000 soldats. Quand on lui demande si Dieu commande de faire exploser des voitures, si Dieu envoie des kamikazes dans les villes de Somalie pour tuer des civils, Gardéré hésite, il cherche ses mots.
La violence est la raison principale pour laquelle nous avons quitté ce mouvement. Nous voulions nous battre contre les infidèles, contre les envahisseurs, pour un État islamique. Mais ce n'est plus cela l'enjeu désormais. Aujourd'hui, les Shabab tuent des civils, ils font exploser des bombes sur les marchés. Nous ne pouvons pas soutenir cela.
Gardéré affirme avoir quitté la milice en 2016, après 8 ans passés dans ses rangs et après de nombreux attentats revendiqués par le mouvement en Somalie, au Kenya et en Ouganda. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps ?
On avait souvent des formations. Ils nous expliquaient l'idéologie et nous ont persuadés qu'un changement était possible. On croyait à un avenir meilleur et on avait hâte. Mais quand j'ai vu que ça ne s'améliorait pas, je suis parti.
Abou, 45 ans, père de 4 enfants, croit aussi toujours à un État régi par des préceptes islamiques. Il raconte avoir rallié Al-Shabaab en 2011. La Somalie était alors frappée par une famine qui a fait plus de 250 000 morts, dont certains ont été tués par le choléra.
L'argent que je gagnais en tant qu'enseignant ne suffisait pas à nourrir ma famille. C'est d'abord pour des raisons économiques que je me suis engagé. La plupart des jeunes de mon village faisaient déjà partie de la milice. Ils faisaient pression sur moi. Ils se comportaient en chef et nous donnaient aussi des ordres à nous qui étions pourtant plus âgés.
Abou et Gardere racontent qu'ils n'ont pas été très longtemps les armes à la main. Ils ne disent pas s'ils ont tué des gens, mais tous les deux affirment avoir ensuite appartenu à ce qu'on pourrait appeler l'administration fiscale du mouvement Al-Shabaab.
Ils réclament de l'argent à la population, une sorte d'impôt. Ils réclament aussi de l'argent si tu veux envoyer ton enfant à l'école, 5 dollars par mois. Ils prennent beaucoup d'argent. Pour ta maison, ta terre, ton enfant. Je n'aimais pas ça, prélever cet argent, et je n'ai rien reçu de ces sommes. J'espérais que ma famille irait mieux grâce au Shabaab, qu'on aurait plus d'argent pour vivre. Mais ce n'était pas le cas. Je subissais des pressions de toutes parts.
Abou dit avoir quitté la milice en 2015. Il explique que les autorités somaliennes ne lui proposaient aucune alternative. Les soldats somaliens sont réputés pour piller, pour violer. Mais Abou a été déçu par les divisions internes au Shabaab qui, eux aussi, pratiquent une politique clanique comme les autorités officielles. La Somalie est l'un des 10 pays les plus touchés au monde par le terrorisme. D'après l'index Global Terror, entre 2006 et 2015, près de 4000 personnes y sont mortes dans des attentats. C'est la fin de ce magazine. Merci à Linda Staude et Sandra Petersmann pour les sons. N'hésitez pas à nous écrire en nous envoyant un courriel à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine. Thank you.